Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, bonjour. Une émission sur Novgorod aujourd'hui, célèbre cité russe médiévale, la plus peuplée de Russie au début du XIIIe siècle, dont le modèle politique fut presque celui d'une république. Pour en parler, nous recevons un grand spécialiste de la Russie médiévale, Pierre Gonod, professeur à Sorbonne Université, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et président de l'Institut d'études slaves, à l'occasion de la parution chez CNRS Éditions de son dernier ouvrage intitulé « Novgorod, histoire et archéologie d'une république russe médiévale 970-1478 ». Pierre Gonod, bonjour.
Bonjour.
Ce livre invite, comme vous le dites dans votre introduction, à la découverte d'une cité qui fut, bien avant Saint-Pétersbourg, la fenêtre de la Russie sur l'Europe.
Tout à fait. Novgorod, en fait, c'est le pôle nord, si on peut dire, de cette Russie des origines, ou de cette Russie, pour être plus précis, dont le centre a été Kiev, mais le nord, c'était Novgorod. C'est par là que sont arrivés les Russes, le peuple qui a donné son nom à la région, et par transition après à la Russie. Et c'est là que a commencé à se former un embryon d'État. Après, le centre de gravité s'est déplacé vers Kiev, mais Novgorod est resté la seconde cité de cet ensemble et s'est développé constamment et a aussi évolué politiquement.
Un livre sur Novgorod manquait vraiment. Le livre qui vient de paraître vient combler ce vide. Pourquoi ? Parce que vous dites vous aussi dans le livre que cette ville a toujours été, enfin en tout cas pendant la période examinée, la deuxième de Russie, donc elle a joué un rôle très important. Nous savons qu'on parle beaucoup de Novgorod quand on parle de l'histoire de la Russie médiévale. Alors le pourquoi, vous allez nous le dire, peut-être deux mots sur la genèse du livre.
Alors la genèse, c'est d'abord avec le CNRS dans cette collection qui s'appelle l'Esprit des lieux et qui essaie à chaque fois donc d'épouser un endroit et de voir à la fois sa construction, son élaboration, ses monuments, et puis le symbole qu'il peut représenter à une époque donnée. Bon, Paris en 1200, c'était l'un des titres, mais aussi dans la longue durée, dans les mémoires. Et pour Novgorod, c'est le cas. Cette ville, donc, à partir de 1478, est annexée par Moscou, dans la Moscovie. Elle reste la deuxième ville de Russie, mais elle entame un déclin, en tout cas politique. Elle n'a plus du tout la même importance, mais elle reste dans la pensée et on la redécouvre au XVIIIe, au XIXe, comme un symbole d'un esprit de liberté par opposition à l'autocratie moscovite, puis de Pétersbourg également.
Donc c'est le moment d'entrer vraiment dans l'histoire de cette ville qui est passionnante et étonnante, je dirais, même pour l'époque. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Novgorod ?
Donc au départ, il y a un site qui est en dehors de l'actuel Novgorod, qui est une sorte de château, on l'appelle Gorodish, et c'est ce que ça veut dire. Et c'est là que s'implante un des premiers sites d'implantation des Varegs ou des Russes, donc des Scandinaves, qui vont dominer cet espace peuplé de Slaves, de Baltes, de Finnois. Puis il y a la ville neuve, Novgorod, c'est son nom, à partir des années 950, disons du milieu du Xe siècle, qui se structure en plusieurs quartiers, sur la rive gauche et sur la rive droite du Volkhov. On aura la rive de Sainte-Sophie avec la cathédrale, dont on va certainement reparler, et la rive du commerce. Et le commerce, c'est aussi l'un des éléments essentiels, puisque cette ville, on remonte le Volkhov, on le descend plutôt jusqu'au lac Ladoga, puis on prend la Neva, on arrive dans la Baltique. Et là, on va nouer des relations avec tout ce monde baltique, en particulier l'île du Gotland, au large de la Suède, puis Riga, Tallinn, et jusqu'à Lübeck, qui est le centre de la Hanse. Et effectivement, Novgorod ne sera pas une ville hanséatique, mais un comptoir de la Hanse. Et c'est le grand lieu qui va délivrer les fourrures, la grande richesse de la Russie et de la Sibérie par la suite, à ce monde occidental qui en est très friand. Les fourrures, c'est une des grandes marchandises globales à cette époque.
Alors, le mode de gouvernement, je crois que dans la Russie de cette époque-là, il n'y a pas d'un gouvernement central, comme on l'a plus tard.
Voilà, donc il y a effectivement un état de Kiev qui se constitue autour du prince Vladimir, donc qui s'est installé là en 980, mais qui avait été prince de Novgorod avant. Donc on voit qu'il y a toujours ce lien. Et par la suite, les descendants de Vladimir régneront à Novgorod. Alors, il y a un prince, Mais ce qui va être la singularité de Novgorod, c'est que ce prince ne va pas faire souche. Alors au début, c'est un peu par coïncidence, aussi parce que Novgorod est tellement prisé que tout le monde la convoite, et donc le pouvoir change. Et puis, à partir de 1136, très précisément, il y a une sorte de révolution politique. Les Novgorodiens chassent leur prince et en invitent un autre. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont leur mot à dire. Ça ne veut pas dire que toujours ils ont le dessus, mais ce prince est invité par Novgorod. Et il y a une expression assez savoureuse, quand ils n'en veulent plus, ils lui montrent le chemin. C'est-à-dire, ils lui montrent la sortie, hein, on pourrait dire en termes actuels. Et ce processus va se renforcer encore, c'est-à-dire que au XIIIe siècle, à partir de 1265, on a un traité en bonne et due forme entre la ville et son prince. Donc, il signe un contrat de travail, on pourrait dire. Et donc, les Novgorodiens vont garder ces libertés, vont développer leur propre magistrat élu. Tout ça jusqu'au moment où, évidemment, Moscou va devenir trop fort. Et dans la deuxième moitié du XVe, le rapport s'inverse. Le grand prince de Moscou, quand il vient à Novgorod, commence à dicter ses conditions. Et finalement, Ivan III, le grand-père d'Ivan le Terrible, va liquider ses institutions locales, ses magistrats élus, et transformer Novgorod en une cité ordinaire, une ville de ses états, mais qui n'a plus cette autonomie d'auparavant.
Donc je crois que ça finit très mal avec Ivan III, non ?
Alors avec Ivan III, c'est déjà assez sévère. Il y a des arrestations, il y a des déportations. C'est un mode déjà employé. On remplace les élites par des gens plus dociles. On préserve le commerce, mais on n'hésite pas à l'occasion à instaurer un boycott pour faire pression sur la Hanse. Donc évidemment, les Novgorodiens n'auraient jamais fait ça. Ou alors un an ou deux, le temps d'extorquer quelques conditions. Et donc, la ville déjà a perdu, on pourrait dire, sa substance. Même l'archevêque, qui est un des personnages éminents désormais, est choisi à Moscou. Il est plus élu sur place, alors que c'était l'une des caractéristiques de Novgorod. Donc ça, c'est la période déjà de refroidissement. Et puis, il y a pire encore, un siècle après, Ivan le Terrible, en 1570, dans le cadre de sa politique de terreur, c'est vraiment, on ne peut pas employer d'autres mots, va venir à Novgorod, et c'est trois semaines en fait, de massacres, d'extorsion de fonds, et évidemment sur fond d'accusations de trahison. Alors, autant à la fin 15e, on peut dire que les Novgorodiens avaient encore quelques velléités, peut-être essayer de jouer la Pologne contre la Russie, même si c'était pas très facile. Autant en 1570, ce n'est pas le cas. Et donc, Ivan le Terrible, c'est un mélange de paranoïa, de volonté aussi de marquer un pouvoir illimité, et peut-être de rancune, parce qu'il était très amateur des chroniques, et donc il avait bien lu toutes ces histoires anciennes, et donc quelque part, il prend une revanche un siècle plus tard sur les Novgorodiens. Et 1570, c'est vraiment une des étapes aussi de la descente de Novgorod, même si la ville reste encore une ville relativement riche, avec de très beaux monuments qu'on peut voir, ou du moins une partie de nos jours.
Très bien, alors si vous voulez, maintenant on va parler d'un personnage célèbre et qui a compté aussi dans l'histoire de Novgorod, vous allez nous dire tout ça, c'est Alexandre Nevski.
Alors Alexandre Nevski est un personnage paradoxal, on pourrait dire, dans l'histoire de Novgorod. D'un côté, c'est un des héros et un des princes les plus importants de l'histoire de Novgorod. Et de l'autre, les Novgorodiens ne l'aiment pas beaucoup parce que, justement, il a la main lourde. Alors, il a commencé très jeune. Il avait 8 ans ou 9 ans la première fois où les princes de Novgorod, parce que son père l'a placé là. Et ça fait partie des stratégies pour réserver le trône. Il revient, il a 16 ans à peu près, en 1236. Et il va régner là une dizaine d'années, à un moment crucial, c'est le moment où ont lieu les invasions mongoles d'un côté, et de l'autre où on a des menaces sérieuses, puisque les Suédois, alors à l'époque le royaume de Suède s'étend dans la Finlande actuelle, donc la Suède est frontalière de Novgorod, au nord du lac Ladoga, les Suédois débarquent sur la Neva, et donc il va falloir les repousser. C'est là qu'a lieu cette bataille de la Neva qui vaut à Alexandre Nevski son surnom de Nevski, de la Neva, 1240. Et puis, 2 ans plus tard, les chevaliers teutoniques, qui sont juste à l'ouest, de l'autre côté de la frontière actuelle entre l'Estonie et la Russie, font des incursions de plus en plus dangereuses et ont même occupé Pskov. Pskov, qui est la petite sœur de Novgorod, petite sœur rebelle, et qui est quand même une cité orthodoxe, bien entendu, alors que ces teutoniques, eux, sont de rite latin. Donc Alexandre va les chasser, va remporter une victoire, là aussi, qui reste dans les mémoires, sur le lac Peipus, donc illustrée dans le film d'Eisenstein. Simplement, ce qu'on ne rappelle pas toujours, c'est qu'entre la victoire de la Neva 1240, la victoire contre les Teutoniques 1242, eh bien, il avait été chassé par les Novgorodiens, qui trouvaient qu'il était un peu trop puissant. Et à cette même époque, donc, les Mongols envahissent la Russie, mais Novgorod est miraculeusement épargné. Donc pour les Novgorodiens, ça sera un signe de leur destin. Par contre, quand Alexandre deviendra grand prince de Vladimir, c'est-à-dire le chef suprême des principautés russes, il va le faire en étant au service des Mongols, puisque en 1253, on ne peut pas s'opposer aux Mongols. Et donc c'est lui qui va venir à nouveau à Novgorod pour leur dire, eh bien, il va falloir quand même payer l'impôt, le tribut mongol. Et les Novgorodiens vont lui en vouloir, là encore, ça va se faire dans les grincements de dents. Donc quand Alexandre meurt en 1263, on n'est pas sûr que les Novgorodiens l'aient énormément regretté, mais l'Église va pacifier tout ça et faire d'Alexandre un saint qui a défendu son pays, qui lui a évité des désastres plus graves contre les Mongols, et donc qui mérite évidemment toute la considération. Et puis plus tard, Pierre le Grand reprendra à nouveau cette légende, puisque Alexandre a triomphé des Suédois, et lui-même, Pierre le Grand, est aux prises avec les Suédois.
C'est donc le moment de notre pause musicale, et ce sera avec un extrait de la musique composée par Serge Prokofiev pour le film d'Eisenstein, Alexandre Nevsky, interprété ici par le London Symphony Orchestra sous la direction de Claudio Abbado. Nous sommes au début de la séquence intitulée « La bataille sur la glace ». Et avec cet extrait de la musique de Prokofiev pour le film Alexandre Nevsky de Eisenstein, et justement la bataille sur la glace, la fameuse bataille que mena Alexandre Nevsky contre les Teutons, en fait. Mm-hmm. Nous revenons donc à notre entretien avec Pierre Gonod sur son livre Novgorod, histoire et archéologie d'une république russe médiévale, 970-1478. Ben, c'est le moment de parler de l'Église, des institutions ecclésiastiques, des monuments ecclésiastiques, du gouvernement ecclésiastique, de l'évêque de Novgorod.
Oui, eh bien, donc là, suite au baptême de la Rus en 988, on crée une métropole de Rus avec donc son siège à Kiev, mais le deuxième évêché, c'est Novgorod. Et très vite d'ailleurs, l'évêque de Novgorod aura le titre et rang d'archevêque, même s'il n'a pas d'évêché suffragant, mais c'est le deuxième dans la hiérarchie de l'Église orthodoxe russe. Et par la suite, ça restera la même chose quand après il y aura un patriarche, il y aura toujours un métropolite de Novgorod. Donc il y a cette idée que Novgorod est la deuxième cité du christianisme orthodoxe russe. Alors, ça se reflète aussi dans le fait que la cathédrale de Kiev, qui est construite la première sous Yaroslav le Sage, c'est Sainte-Sophie, à l'imitation de Sainte-Sophie de Constantinople. Et il va y avoir aussi, tout de suite après, une Sainte-Sophie de Novgorod, donc construite entre 1045 et 1050 ou 1052. C'est une copie, on pourrait dire. Il y a un modèle qui est la Hagia Sophia. On le reproduit, une grande église pour l'époque. Alors, il faut voir aussi que dans l'espace russe, ces monuments n'existaient pas jusque-là. Même les sites païens, on les connaît très mal, mais ils n'avaient pas cette ampleur, autant qu'on a pu le voir. Et là, donc, un édifice de 27 par 25 mètres, 5 nefs, 3 galeries latérales, c'est quelque chose qui impressionne. Après, évidemment, on aura ce toit de plomb, une coupole dorée, donc un monument qui impressionne. Il va constamment être l'objet des soins jaloux des Novgorodiens. D'ailleurs, les Novgorodiens, quand ils sont devant la bataille, nous, on disait « Montjoie Saint-Denis », eux, ils disent « pour Sainte-Sophie ». Ils vont se battre pour Sainte-Sophie. Et les évêques, archevêques, vont être des vrais mécènes, on peut dire, des constructions, d'abord de leur cathédrale, et puis ils fondent aussi énormément d'églises et de couvents dans leur ville. Alors, il y a ces portes en bronze qui ont été aussi parmi les choses à remarquer, donc portes de Magdebourg, comme on les appelle, parce que c'est des portes allemandes, des années 1150, et qui ont été finalement reposées en Russie, et très curieux de voir qu'on a des légendes en latin accompagnées de légendes en cyrillique, donc on passe d'un monde à l'autre. Porte de l'archevêque Basile en 1336, sculptée elle aussi, et qui, elles, ont été enlevées par Ivan le Terrible, parce qu'il les trouvait à son goût, et il les a donc emmenées lors de ce fameux pillage de Novgorod en 1570. Donc, on a une cathédrale qui est foisonnante, avec bien entendu des fresques aussi, des icônes, et des icônes miraculeuses. Donc, on pourra parler d'une des icônes les plus connues, l'icône du cygne, qui commémore une des victoires de Novgorod.
Donc, dans cette Russie médiévale, qui se forme un peu à peu aussi ecclésiastiquement à cette période-là, et qui dépend de Byzance, encore, puisque le métropolite est nommé par le synode de Constantinople, nous avons ce centre orthodoxe, en fait, hein, qui grandit à Novgorod et dont nous avons les vestiges encore. Alors, vous avez parlé de Sainte-Sophie, puisque le rappel byzantin est là. Avant peut-être de passer à autre chose, je voulais peut-être un mot sur, c'est un peu après dans l'histoire, au moment du concile de Florence Ferrare, on voit bien l'opposition qu'il y a entre le prélat de Novgorod et ce métropolite envoyé de Byzance, Isidore de Kiev. Hein.
Tout à fait. Le métropolite Isidore est favorable à l'union, il est même envoyé un peu pour ça. Et Eutyme de Novgorod, l'archevêque, lui, au contraire, est très méfiant. Il incarne un peu le traditionalisme russe. Et donc, il y a des entrevues avant que Isidore s'en aille. Et puis, quand Isidore revient et que Eutyme comprend que l'union a été signée, même si ce sera sans lendemain, là, il y a une sorte de rupture qui fait que il se replie un petit peu sur ses bases de Novgorod. Alors, c'est très important, effectivement. Par la suite, quand évidemment l'Église russe deviendra autocéphale, va se détacher de Constantinople, eh bien, est-ce que Novgorod suit ? Donc on a toujours aussi cette idée que l'Église de Novgorod, c'est fondamental. Il faut qu'elle soit loyale et qu'elle reste dans le rang. Sinon, évidemment, ça dégarnit l'orthodoxie russe. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Novgorod est vraiment un centre culturel aussi et que ses évêques écrivent, composent des œuvres, des sermons. Il y en a un qui a écrit un traité sur le paradis terrestre qui est aussi assez passionnant. Et donc, il y a une vie spirituelle importante. Il y a des vies de saints de Novgorod, des icônes. Et une chose que je tiens à signaler quand même, c'est la présence de ces messages sur écorce de bouleau qui sont l'une des trouvailles archéologiques qu'on n'attendait pas, qu'on a trouvées à partir du milieu du XXe siècle. Donc, ça prouve que beaucoup plus de gens qu'on ne pense écrivaient des petits billets, des petits messages de la vie quotidienne, des affaires d'argent, des affaires d'amour aussi, on en trouve. Et on les retrouve dans le sol, on peut les lire, les déchiffrer. Il y a donc un site d'ailleurs qui est dédié à cela. Et on a même des petites icônes gravées, naïves, sur écorce de bouleau et les petits billets d'un jeune enfant qui apprend à écrire et donc écrit ses psaumes, puisque c'est comme ça qu'on apprend. Donc ces documents-là sont particulièrement passionnants parce qu'on a l'impression de toucher à la vie quotidienne.
Donc il nous reste à peine 2-3 minutes... Si nous allons aujourd'hui à Novgorod, qu'est-ce que nous pouvons visiter? Enfin, quel est l'ordre que vous conseillez?
On a un centre-ville qui a été restauré après la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands l'avaient occupé, les Russes l'ont libéré, donc très vite, on l'a préservé. Et donc, on a ce centre-ville qui n'est pas aussi dense que dans une cité médiévale telle qu'on l'imagine, mais où il y a beaucoup de monuments, beaucoup d'églises, certaines avec à l'intérieur encore des fresques qui valent la peine d'être vues, un musée de Novgorod, et donc le Kremlin, ou le Dietinets, c'est le nom local, avec Sainte-Sophie, qui là offre un concentré, on pourrait dire, de ce qu'il faut voir à Novgorod. Ajoutons quand même l'église de la Transfiguration dans la rue Saint-Élie, où il y a les fresques de Théophane le Grec, qui a été le maître d'André Roubliov. Et là, on peut contempler la Trinité de Théophane et après la comparer à la Trinité de Roubliov et faire un petit peu une sorte de raccourci sur cette façon dont la Russe a suivi des modèles grecs, mais a aussi su les réinterpréter et les approfondir à certains égards.
On y voit d'ailleurs la différence entre la Trinité traditionnelle grecque, hein, qui est en fait la philoxénie, on dit, hein, l'accueil d'Abraham et de Sarah, et les deux sont là, chez Théophane, et après, avec Roubliov, les deux personnages disparaissent.
Voilà, c'est réduit.
Nous n'avons plus que les trois anges.
C'est réduit à sa plus théologique expression, on pourrait dire. Et puis, les harmonies de couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Donc, là aussi, on a beaucoup réfléchi à cette façon dont Roubliov lui donne un ton peut-être plus doux. Tandis que chez Théophane, elle est un peu dominatrice, cette trinité un peu impressionnante. Évidemment, puisqu'en plus, les hommes sont là et sont petits par rapport à ce mystère divin. Tandis que là, il est tout entier dans Roubliov, à l'intérieur du mystère.
C'est une des théophanies, en effet, de l'Ancien Testament. Bah, écoutez, c'est passionnant et puis il faut lire ce livre. Pierre Gonod, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Novgorod, histoire et archéologie d'une république russe médiévale, 970-1478, CNRS édition 2021. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Pierre Monteil. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et voici maintenant Solae, le rendez-vous protestant par Jean-Luc Gadreau.